Vous écoutez
RMC.
RMC.
Je pense que ça a été compliqué pour Strasbourg, même au niveau mental, parce qu'on a été en rouleau tout le match, quoi.
On a eu un moment difficile, mais ce moment difficile, il a duré pendant 90 minutes.
J'essaie de faire mon mieux, d'apporter pire à la déficit, et donc je suis content.
RMC, l'afterfoot.
Karine Galli.
Bonsoir à tous, bienvenue dans l'Afterfoot. On est en direct jusqu'à minuit. L'OL l'a fait, l'OL a été au rendez-vous. Les Lyonnais ont battu le Sparta Prague 3-0. Il n'y a pas eu match. Les Lyonnais sont donc en barrage de Ligue des Champions. La semaine prochaine, ils affronteront le Fenerbahçe. Et puis, dans 15 jours, ils recevront le club turc. On va évidemment débriefer cette victoire et cette qualification de Lyon. On parlera également de la Super Coupe. Demain, le PSG affronte Aston Villa. Et puis, toutes les informations du jour, notamment sur la planète Mercato. Il est là en studio avec moi, Maxime Chanot, bonsoir.
Salut Karine, salut à tous.
En pleine forme?
Et en grande forme, oui. Après cette victoire, cette très belle victoire de Lyon, je suis très heureux.
Lyon a fait le job, tu l'avais dit hier, et ça s'est concrétisé sur le terrain. Et on est également avec Daniel Riolo, bonsoir.
Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, salut Max, salut Karine.
Salut Daniel.
Content d'être de retour, voilà. Un petit break dans l'été pour le match de l'OL.
L'OL qui a fait le boulot, qui n'était pas en vacances ce soir parce qu'ils ont totalement maîtrisé cette rencontre. On rappelle qu'au match aller, il y avait une énorme déception. Les choix de Fonseca, la défaite de Buzyn, ils devaient répondre ce soir, ils l'ont fait. Lyon qui gagne finalement 3-0. Alors évidemment, il y a eu une aide, c'est le Sparta Prague qui a été réduit à 10 dès la 34e minute. Mais surtout, on a vu des joueurs qui étaient au taquet. On a vu un très bon Banton, on a vu un très bon Tolisso, le capitaine, lui qui avait été défaillant la semaine dernière. Et donc Lyon est logiquement qualifié pour la suite de la compétition. On rappelle les buteurs, Nouama, la belle histoire, Nouama qui avait été très longtemps blessé, qui faisait son retour en tant que titulaire et qui marque ce soir, Maitland-Niles et Morton. Une première analyse, messieurs, Lyon était au pied du mur, Fonseca avait été critiqué au match aller, là ils ont maîtrisé le match, ils ont fait ce qu'il fallait d'entrée.
Dès le début en fait, on a senti quand même que c'était pas du tout l'OL de la semaine dernière, qui, comme tu l'as dit, avait complètement raté son match, avait même à la limite été presque ridicule tant il n'était pas au niveau d'un, même si ça n'est qu'un tour préliminaire de Ligue des Champions, mais comme on s'attend toujours à ce que les clubs français le passent facilement, et c'est pas toujours le cas. Bon, en tout cas, on s'attendait pas à voir ce visage des Lyonnais. Alors, on avait cherché un peu d'explications dans les choix de Fonseca, mais enfin, au-delà des choix, c'était juste l'attitude, c'était le manque de course, le manque d'implication qui avait été extrêmement décevant. Je crois que Max t'avait dit, si j'ai pas raté, que tu t'attendais à ce qu'il y ait une réaction ce soir et tu voyais Lyon quand même se qualifier. Je crois que t'avais dit ça, je suis pleinement d'accord avec toi. J'avais du mal à imaginer que Lyon se rate deux fois. Néanmoins, après le très bon début de match de ce soir, j'ai quand même vu un Sparta qui commençait à sortir un peu le nez à la fenêtre. Le fait qu'ils aient été réduits à 10, d'abord, ça n'est pas tombé du ciel, parce que pour que tu sois réduit à 10, il faut quand même que tu aies une attaque, une belle ouverture, une faute de défenseur. Bon, de toute façon, c'est toi qui l'as provoqué.
Faute sur Openda.
Mais la tournure extrêmement favorable du match de ce soir. N'oublions pas que c'est un moment très important quand même quand ils prennent le carton rouge de Sparta. Sans ça, je ne dis pas que Lyon passait pas, hein, loin de là. J'ai vraiment pas envie de dire ça, mais je suis pas sûr que ça aurait été aussi facile que ça.
Était ensemble hier, Max, et c'est vrai que toi, tu pensais qu'il allait avoir une réaction lyonnaise, tu les voyais pas être en danger, tu les voyais répondre et faire aussi des choix beaucoup plus cohérents, et ça a été le cas, hein. On rappelle, il y avait trois joueurs qu'on attendait titulaires, ils étaient bien titulaires, c'était le cas avec Niakate qui était de retour en défense, il a fait du bien, Fofana et donc Nouama, la belle histoire, et puis on est revenu avec un système classique, on a vu Tolisso au milieu de terrain, on a vu également finalement Morton devant la défense qui a été très bon, vous me direz d'ailleurs qui est votre du match, mais en tout cas, Lyon a été au rendez-vous et ce qu'on a vu, c'était du classique, du logique, et ça s'est traduit par une victoire logique sur la pelouse.
Non, exactement. Alors c'est vrai qu'hier, moi, lorsqu'on a été sur l'émission, je pensais sincèrement que Lyon allait rouler sur le Sparta. Ça a été le cas, mais à condition évidemment que Fonseca revienne à des choses simples, des choses que les joueurs comprennent en fait, et en particulier là une tactique qui était différente du match aller. Alors on va pas revenir sur ce qui s'était passé au match aller, mais il est vrai que moi, j'avais pas du tout compris la tactique de Fonseca. Je l'avais trouvé bien trop défensif.
Après, il avait pas les attaquants hein, quand même, Max.
Moi, il avait pas d'attaquants, mais bon, Openda était quand même là, et puis surtout, il avait mis ses quatre ailiers sur le côté, Nouama. et Fofana, Malik Fofana. Et aujourd'hui, tu te rends compte, et on en parlera peut-être un peu plus tard quand on reviendra sur le.
Physiquement, quand même. Mais ça compte aussi.
Justement, on en parlera peut-être un peu plus tard lorsqu'on reviendra sur le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, je pense, Daniel, que la qualité d'un joueur doit passer avant l'aspect physique. Et j'entends très bien ce que tu vas me dire, que tu peux pas faire jouer un joueur s'il n'est pas prêt physiquement. Mais quand bien même le joueur n'est pas prêt à jouer 90 minutes, eh ben écoute, fais-le jouer 50 minutes, fais-le jouer 60 minutes et fais-le sortir. Les choix qui avaient été faits au match aller de la part de Fonseca étaient pour moi incompréhensibles. Il avait fait jouer des joueurs qui n'étaient pas à leur poste. Je pense à Abner qui là a joué arrière gauche. Le match aller, il avait joué presque ailier droit. Enfin voilà, aujourd'hui, moi, j'avais pas compris.
Oui, non, ça, je suis absolument d'accord.
Mais même Tolisso aussi,
qui avait joué un cran plus haut. On sait très bien que Tolisso, il est quand même bien meilleur dans ce rôle de milieu relayeur. Il l'a montré ce soir. Alors, certes, Fonseca est revenu à des choses beaucoup plus simples, qui étaient évidemment bien compris par
ses
joueurs.
Après, il a les joueurs, Max, il a les joueurs pour faire, pour finalement pas trop se casser la tête. Quand t'as Fofana, Nouama, Openda, ta ligne d'attaque, t'as pas trop à mener de lourdes réflexions pour savoir comment tu vas jouer.
Je suis d'accord avec toi.
Et... terrain, Tolisso, Morton, bon là c'est Tesman, on sait pas s'il va rester, mais enfin quand il est là, voilà, ton équipe elle est constituée, tu vas jouer en 4-3-3, ça va être simple, et puis après, on verra la prestation que livrera l'équipe. Ouais. Mais t'as pas à aller chercher des compositions. Après, Fonseca, il fait partie un peu de ses coachs qui parfois veut gagner le match, veut trouver un truc un petit peu particulier. Il fait partie de ses coachs un peu intellectuels, qui veut réfléchir,
parfois,
qui veut
parfois un peu trop,
sortir une idée du chapeau. Bah oui. J'en connais un autre qui est double champion d'Europe. Quand il faisait très compliqué, ça marchait pas. Puis quand il est revenu à quelque chose de simple, il a fait deux titres de champion d'Europe.
Donc
parfois, t'as des entraîneurs comme ça qui aiment bien secouer un petit peu, tu vois, les cerveaux, alors que bah, c'est pas forcément par là que ça passe le succès.
Ouais, non, je suis entièrement d'accord avec toi, Daniel, par rapport à ça. Donc, juste pour revenir par rapport au choix de Fonseca, t'as aussi des joueurs qui, derrière aussi, ont assumé leur statut. Je pense à Tolisso, qui a été bien meilleur que sur le match aller. Le retour de Niakate a fait énormément de bien aussi à cette défense. On voit vraiment que c'est le leader vraiment de cette défense lyonnaise. Donc, voilà,
Le deuxième but, il fait une ouverture extraordinaire.
Ouais, c'est un super joueur.
Passe, son décalage vers Tolisso. J'ai beaucoup aimé cette passe, ce mouvement collectif du deuxième but. Mais le décalage de Niakate est très très bon.
Ouais, tu le vois. Et puis même dès le début de match, il n'avait pas peur d'aller chercher l'attaquant. Il a fait 2-3 fautes. Il a vraiment été très agressif. Et tu sais, c'est important hein, quand tu as des joueurs comme ça derrière, bah, t'emmènes un petit peu tout le groupe avec toi. Donc je pense que le retour de Niakate a été très intéressant et surtout très important. Et tu le vois encore une fois, Daniel. C'est un joueur qui revient de la Coupe du Monde, qui n'a fait aucun match de préparation et qui aujourd'hui a géré son match de manière quand même honorable. Alors évidemment, c'est un défenseur central, c'est des efforts différents que si tu compares avec des postes offensifs, notamment Malik Fofana ou par exemple des mecs comme Nouama. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui la leçon que j'ai envie de retenir, c'est, et j'en parlerai un peu plus tard aussi par rapport au Paris Saint-Germain, peu importe, lorsque tu joues des matchs tellement importants pour le club, et c'est le cas avec l'Olympique Lyonnais, on connaît un petit peu les finances de Lyon et on sait que c'est très très important cette qualification en Ligue des Champions. C'est la même chose pour le Paris Saint-Germain. Demain, tu vas jouer une finale. Dimanche, tu vas rejouer une autre finale. Peu importe, honnêtement, la qualité technique, tactique. Voilà, il faut aujourd'hui aligner tes meilleurs joueurs. Et Fonseca a trouvé enfin la solution en mettant ses 11 meilleurs sur le terrain. Et derrière, voilà, ils ont lavé, ils ont roulé sur le Sparta Prague. Et aujourd'hui, ça fait le bonheur de l'Olympique Lyonnais. Mais voilà, c'était
Lyon
semble toute logique.
A été au rendez-vous. On rappelle donc que les Lyonnais vont jouer les barrages de la Ligue des Champions. Ça sera la semaine prochaine face au Fenerbahçe. Ça sera soit le 18, soit le 19 août. Et le retour, ça sera au Parc OL le 25 ou 26 août. On rappelle que ce soir, il y avait une très belle ambiance et il faut aussi féliciter les supporters lyonnais qui s'étaient présentés en nombre au Parc OL, plus de 50 000 personnes. On accueille Cédric, supporter de l'OL, justement au 32-16 avec nous sur RMC. Bonsoir.
Bonsoir Karine, bonsoir Max et bonsoir le patron Daniel.
Cédric, ne dis pas trop le patron.
Le revenant, on est obligé, il a eu ses vacances, il revient, on est obligé.
Ça va trop le faire mousser, on n'est que le 11 août, calmons-nous. Cédric, j'imagine que tu es très heureux d'avoir vu un Noël dominateur, un Noël qui a fait le job et donc qui, pour la première fois de son histoire aussi, c'est important de le dire, renverse une situation qui était mal embarquée. À chaque fois que Lyon avait perdu le match aller, ils n'avaient pas poursuivi leur parcours européen, eh bien, ils l'ont fait pour la première fois ce soir face au Sparta.
Pardon Karine, mais ça, tu sais que c'est complètement fou en fait. Tu dis ça comme ça et j'y ai pensé également quand je regardais le match. Mais quand on sait le passé européen des Lyonnais, que finalement ils n'aient jamais vécu ce genre de soirée-là. Bon, alors c'est un 11 août, c'est un premier tour de barrage, c'est anecdotique. Normalement, dans deux semaines, on aura oublié ce match-là. Mais je trouve que c'est assez dingue que Lyon ait jamais fait ça avant. Quoi. C'est presque anormal en fait.
Oui, enfin, bon, voilà, par rapport à l'époque de Jean-Michel Aulas, c'est vrai qu'on imaginait.
Ouais, mais je trouve qu'il faut le souligner.
Des
quoi.
Scénarios.
C'est assez incroyable. Assez incroyable comme stat.
Alors, Cédric, t'as pris ton pied devant la télé?
Ouais, alors on le prendra après le match aller-retour, on le Fener, parce qu'au final, rien n'est encore gagné, on a juste passé une étape, faut aussi...
Ça va être un autre niveau contre le Fener.
Voilà, faut se remettre voilà tranquillement. Moi, je suis content du match de ce soir. On voit simplement que quand on remet des bases, quand Fonseca remet des bases juste simples, avec des joueurs à leur poste, c'est quand même plus simple. Et on voit que j'étais content d'un Malik Fofana qui avait les jambes, un Nouama qui a fait du 1 contre 1 tout le match, il m'a régalé. Openda, moi, sincèrement, même s'il ne marque pas ce soir, il fait un boulot devant monstrueux. J'ai rarement vu un joueur comme ça à l'OL qui faisait autant de courses, autant d'efforts. Il vient d'arriver. Le match aller, je l'ai trouvé quand même qui sortait un petit peu du lot. Mais ce soir, ce qu'il fait, c'est incroyable. On a vu un Tolisso en taille patron, un Morton au-dessus du lot, au milieu de terrain, je l'ai trouvé. Et puis, il y a le patron derrière, Niakate. Mais ça fait plaisir.
Est-ce que tu aimerais voir cette équipe toute la saison? Parce que tu sais, on n'arrête pas de le dire depuis le début de la soirée, ça n'est que le 11 août. Et le match le plus important, c'est Fenerbahçe. Le championnat n'a même pas encore commencé. Et on a du mal à savoir si c'est cette équipe qu'on voit ce soir.
On a mal à savoir.
Si Lyon passe en Ligue des Champions. Elle a de l'allure, hein.
Elle est équilibrée, je suis d'accord avec toi. Elle est solide derrière, au milieu de terrain, c'est pareil, les trois, Tesman, Morton,
mais il y a des chances que ce soit pas comme ça. Il y a des chances que ce soit pas ça.
Il y a des départs qui peuvent encore.
Maitland Niles va partir, Tesman pourrait partir.
À droite, oui, on a pris le petit jeune là du milieu AC, il me semble, qui arrive.
Exactement. Voilà. Oui,
et ça risque d'engendrer le départ de Maitland Niles, en effet. Mais à part Tesman et peut-être Maitland Niles, je pense que là, t'as la grosse base de cette équipe, non? Qu'on risque de voir.
Ouais,
cette
mais toi,
année,
Maxime, c'est toujours pareil. Tu peux mettre des joueurs sur le terrain. À un moment donné, moi, j'ai vu de belles choses et j'ai vu des joueurs qui avaient envie de faire un match de Coupe d'Europe ce soir. Qui avaient envie de courir, de faire les efforts ensemble. Et ça fait la différence. Le match de la semaine dernière, j'étais devant ma télé,
mais tu sais, quand tu mets aussi tes joueurs dans les meilleures dispositions, et ça a été le cas ce soir de la part de Fonseca, tout est beaucoup plus simple. Tu l'as dit, en plus de ça, t'as le retour de tes tauliers, notamment Niakate, t'as le retour de Tolisso à son vrai poste, t'as le retour des deux ailiers et Openda qui commence à monter en puissance. C'était, je l'avais dit hier, c'était somme toute logique, en tout cas, qu'on retrouve un Olympique Lyonnais dominant, et ça a été le cas. Il n'y a pas une fois presque que les Lyonnais ont douté, finalement. Il y a cette première action, là, cette tête où Tesman laisse partir l'attaquant de Prague, en général.
Tous en même temps.
Les Lyonnais ont quand même dominé de bout en bout. Hein.
Cédric, on t'écoute.
Ouais, tout à fait. Mais comme Daniel a totalement raison aussi, ou Maxime, t'as raison aussi de ce que tu dis, mais je veux dire, Daniel, quand il dit par rapport au 11 là qui est mis en place, je trouve ça franchement très bien pour la Ligue 1 et y a pas de problème. Maintenant, ça va manquer quand même de bancs. Donc j'espère que Lyon va se qualifier en Ligue des Champions pour pouvoir ramener de l'oseille dans le club et pouvoir également faire 2-3 coups sympas. Lyon est capable de le faire, l'a déjà fait. Et bien évidemment que si Lyon se qualifie, ça apportera un plus.
Malheureusement, en fait, moi, j'y crois pas trop à cette théorie, parce que chaque année, on dit que les clubs, on attend la qualif en Ligue des Champions, l'entrée en phase de poule, parce que c'est 44 millions et que ça permet aux clubs de voir un petit peu plus grand. Moi, je me demande si, dans le cas des clubs français qui vont tellement mal financièrement, en fait, c'est pas juste, c'est génial, on a l'oseille, mais en fait, on va pas le dépenser. On le garde en trésor et on voit ce qu'on fait, et que sur les 44 qui vont rentrer, si tu fais un recrutement autour de 10 millions, ce sera le bout du bout, quoi. Parce que la Ligue des Champions, les clubs français, ils vont pour participer, pour prendre l'oseille, mais ils y vont pas en se disant on va avoir une équipe plus forte pour qui sait faire quelque chose ou sortir des poules ou je ne sais quoi. C'est malheureusement pas comme ça qu'on raisonne dans notre football aujourd'hui, parce qu'il y a pas, il y a toujours ce problème d'oseille.
Oui, mais t'arrives à faire plus de club, points qu'avant, parce que avant, par exemple, si t'avais le Real, Manchester City, tu savais que t'avais déjà 4 matchs qui étaient cuits. Là, t'as une variété de clubs qui te permettent quand même d'aller grappiller un petit peu plus de points,
oui,
que sur la formule précédente.
Mais justement, c'est pour ça que globalement, l'argent que tu gagnes si tu te qualifies, tu vas pas le dépenser dans un recrutement pour renforcer ton équipe, parce que tu as presque plus de possibilités maintenant avec 24 places pour éventuellement sortir de la phase de poule, si tant est que ce soit si important pour les clubs français de sortir de cette phase de poule. Et tu te dis, on y va avec notre équipe, on essaye de faire un banc à côté. Moi, je suis sûr, je suis prêt. En plus, les dettes à l'OL sont tellement énormes, et avant qu'on éponge tout le passif des dernières années, si attention, c'est vraiment pas fait du tout contre Fenerbahçe, calmons-nous quand même. Hein. Mais si jamais
oui,
ça devait passer.
J'ai regardé le 11, grosse équipe. Hein. Lukaku voilà. En plus,
si jamais ça devait passer, moi, les 44 millions, je peux vous assurer que ça va direct dans les caisses et qu'il n'y en a pas plus de 10 qui seront dépensés.
Donc, Fenerbahçe, c'est le 18 août et le retour, ça sera le 26 août. Ça a été acté.
Très bonne nouvelle, ça, de recevoir le retour.
Oui, vous recevez au retour, ça sera au Parc OL. Cédric, je te pose une question et puis après, je demande à Daniel et à Maxime. Quel est ton meilleur joueur ce soir? Moi, j'ai deux tendances. J'ai soit Tolisso, soit Morton. Toi, tu actes pour qui?
Ah, j'ai Morton. Morton, pour moi, il fait un match incroyable au milieu de terrain. Et au niveau des efforts incroyables, pour moi, Openda, il fait un match de fou. Hein. Mm. Il lui manque le but, mais il fait un match incroyable sur les efforts. Hein.
Parce que c'est lui qui a, sur le match aller d'ailleurs, hein, parce que ça avait été peut-être le meilleur lyonnais, si on peut en tirer un sur le match aller.
Oui,
c'est lui qui avait justement
obtenu
le penalty. Là, il obtient le carton rouge de l'adversaire. C'est vrai qu'il a été très, très précieux, mais il est très compatible Fonseca hein, dans ses appels en profondeur, même sa manière de pouvoir garder le ballon.
Il est solide en plus. Ouais,
honnêtement, c'est une très très bonne pioche hein, de la part des Lyonnais. Hein.
Je pense.
Merci beaucoup Cédric d'avoir été avec
nous.
Belle soirée.
Et très bonne nouvelle. On entendra la fameuse musique de la Ligue des Champions au Groupama Stadium.
Tu seras là le 26 août?
Non, du tout. Ah. Je suis dans le sud-ouest. On profite de la plage, de la piscine et des férias.
Ah ben c'est bien aussi. Voilà, on te met la musique de la Ligue des Champions en direct sur RMC.
Ça fait du bien d'entendre.
Dans le play-off, on l'entend la musique. Hein. Ce soir, elle n'y était pas, mais elle y sera la semaine prochaine.
Ce soir, exactement, dans le barrage, on l'entendra.
Voilà, la semaine prochaine, donc double confrontation face au Fenerbahçe, 18 août en Turquie, 26 à Lyon. Daniel, pour toi, quel est le joueur que tu veux ressortir? Est-ce qu'il y a un match entre Morton et Tolisso ou est-ce que tu as un autre joueur que tu voudrais mettre en avant?
Ah non, je suis assez d'accord avec toi là-dessus, mais j'ai vu une équipe assez complète. J'ai aimé Niakate derrière en patron. Évidemment que Norton fait un très gros match et que j'aime beaucoup ce joueur. Et puis bah Tolisso et oui, c'est marrant parce que de plus en plus les auditeurs quand même sont assez pointus dans l'expertise, parce qu'avant on soulignait pas trop quand l'avant-centre n'avait pas marqué mais participait énormément au jeu collectif. C'est le cas ce soir, c'est vrai qu'il faut le souligner pour Openda qui est pas dans énormément de bons coups, qui fait même des mauvais choix je trouve sur certaines frappes ou sur ça, mais à côté de ça il a tellement œuvré pour le collectif qu'effectivement qu'il faut le mettre en avant.
Mais ça va revenir, Daniel. Ça va revenir. Il a très peu joué Morton du côté de la Juve l'année dernière. Moi, je suis vraiment pas inquiet hein, par rapport à la montée en puissance de Openda, mais je suis d'accord avec toi par rapport à certains choix. Il peut peut-être mieux faire, notamment dans la dernière passe ou devant le but.
Et idem pour Fofana. Fofana, pareil, lui aussi. À un moment, il rate un contre un. Il s'en veut. Il dit c'est pas possible. Derrière, on le lit sur ses lèvres. Mais ce qui est pas possible, c'est en fait de rater ce qu'il a raté, parce que le gardien, ok, il est là, il fait son taf. Mais toi, tu dois juste mettre au fond. Il en a raté une ou deux, Fofana.
Ouais, notamment à la 30e, okay. Ouais, c'est vrai.
Après, exactement, je veux dire, mais deux, et en deuxième mi-temps, une encore plus énorme. Et il doit mettre dedans Fofana.
Ouais, ouais. Et après,
j'attends qu'il progresse. Hein.
Que ça soit Openda et finalement Nouama et Fofana, c'est presque des recrues aussi, hein, eux qui n'ont pas joué depuis longtemps, eux qui reviennent quand même
c'est
de blessure. Donc c'est vrai que c'est encore une fois, c'est des joueurs qui vont monter en puissance. Et ce qu'ils nous ont montré ce soir, alors attention, hein, je m'en dis à mon analyse.
On rappelle, il y a eu une exclusion dès la 34e minute.
Mais quand même, tu le vois, même dans les attitudes, dans les courses.
Le match, il a été finalement facile pour les Lyonnais.
Mais c'est pas si facile que ça, Karine. Tu sais, alors on a toujours tendance à penser que parce que l'équipe en face est en infériorité numérique.
Le premier but,
ah,
le gardien, il est minuscule.
C'est quand même mieux, Max, quand même.
C'est
pas un avantage.
Mais bien sûr, c'est alors.
Et à la 34e, Pierre, on se contredit. Donc la soirée a été facilitée par les Lyonnais, mais tu dois même le prendre en compte.
Pour des joueurs comme Malik Fofana, Nouama, qui aiment prendre la profondeur, quand l'équipe d'en face est en infériorité numérique, pardon, c'est une équipe qui a tendance à jouer en bloc bas. Donc ça devient beaucoup plus compliqué, tu as beaucoup moins d'espace. Donc c'est pour ça que je dis attention vraiment à l'analyse. Ce n'est pas parce qu'une équipe perd un joueur que parfois c'est beaucoup plus facile pour les attaquants.
Bien sûr,
bah
mais
si,
il faut
parce
aussi
que majoritairement tu gagnes quand même quand t'es 11 contre 10 quoi. Donc
oui, parce que évidemment
si, quand même,
ils ont pris le carton rouge très tôt, donc tu sais très bien qu'à l'usure t'allais les avoir.
Donc c'est tout est là. Je suis désolé. Après le très bon début de match, les 5-10 premières minutes où il y a eu beaucoup de pressing, moi j'ai trouvé que derrière le Sparta commençait à se mettre un petit peu en place. C'est une équipe assez technique. Le résultat est la config du match qu'on qualifie de facile au final. Moi je pense que ça n'aurait pas été si le Sparta avait été à 11 contre 11, mais encore une fois ça ne tombe pas du ciel quand t'es à 11 contre 10, c'est parce que tu as bien joué, parce que
t'as permis de lancer un attaquant, tu as provoqué la faute du défenseur, tant pis pour eux, ils se sont retrouvés en infériorité. Mais ça a beaucoup, ça a été un tournant très important dans ce match. Attention.
Lyon a fait le job et donc continue sa route vers la phase de groupe de Ligue des Champions. Un succès 3-0 face au Sparta Prague. Les Lyonnais donc qui seront en Turquie sur la pelouse du Fenerbahçe le 18 août. Retour au Parc Ouel le 26 août. Dans quelques minutes, nous serons avec Pierre, supporter lyonnais également, qui veut débriefer avec nous cette qualification. Mais on va retrouver tout de suite Corentin Roland, parce que vous le savez qu'il y a du tennis. Bonsoir Corentin. Malheureusement, on avait un Français et il a perdu comme souvent.
Oui, il n'y aura pas de demi-finale du Masters 1000 de Montréal pour le numéro 1 français. Arthur Fils, il a été dominé par Raphaël Rodard en 1h42. En 2-7, il s'est accroché. Arthur Fils, il a sauvé 3 balles de match, mais globalement, il a été dominé par le nouveau prodige espagnol du tennis, Raphaël Rodard, 19 ans, qui va donc faire sa première dans un dernier carré de Masters 1000. Arthur Fils, lui, termine donc en quart de finale. Score final 7-6-6-3.
Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, Corentin Roland. Dans quelques instants, on continue à parler de cette qualification de Lyon. Victoire 3-0 face au Sparta Prague. Pierre nous attend. On parlera également de la Super Coupe. Demain, le PSG affronte Aston Villa. Et puis, toutes les infos Mercato. On est ensemble jusqu'à minuit en direct sur RMC. À tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit. L'afterfoot.
Karine Galli.
On est ensemble sur RMC jusqu'à minuit dans le studio Roland Courbis. On est avec Maxime Chano, avec Daniel Riolo et on débriefe la victoire de Lyon. Lyon qui est qualifié pour les barrages de Ligue des Champions. Une victoire 3-0 face au Sparta Prague. Les Lyonnais qui ont fait un gros match. Nwama, Maitland-Niles et Morton sont les buteurs. On rappelle que le Sparta Prague a été réduit à 10 dès la 34e minute. Selinski a pris un rouge direct et les Lyonnais espèrent rejoindre en Ligue des Champions le PSG, Lens et Lille. Le programme, c'est le Fenerbahçe le 18 août, donc match en Turquie, et le retour, ça sera le 26 août au Parc Ouel. On va continuer de débriefer ce match. On parlera également de la Super Coupe qui a lieu demain entre le PSG et Aston Villa. Mais on accueille Pierre, supporter lyonnais, au 32-16 avec nous sur RMC. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Karine, bonsoir monsieur.
Salut Pierre.
Dis-nous tout, est-ce que tu es rassuré du visage lyonnais que tu as vu ce soir? Qu'est-ce que tu as pensé de finalement cette équipe que Paulo Fonseca a mise, qui était classique attendu mais qui a très bien marché?
Moi j'ai été agréablement surpris de ce qui s'est passé ce soir. Il y a eu une bonne intensité, un bon collectif. Après justement, j'espère que de ces deux matchs, Fonseca aura retenu certains enseignements et qu'il aura notamment, si on peut dire, grillé un petit peu ses jokers. J'ai où trouve tout, comme dirait Daniel, c'est-à-dire de tenter des choses un petit peu sorties du chapeau, un peu trop absurdes. C'est-à-dire que voilà, quand on revient aux fondamentaux, quand on revient aux basiques, comme le disait un petit peu Daniel tout à l'heure, bah voilà, alors certes, il y a pas mal de joueurs qui sont revenus des valeurs sûres. Je pense à Niakate qui, alors il était un peu nommé tout à l'heure, mais pour moi, avec Morton dans un autre registre, c'est un des tauliers ce soir parce qu'il rassure toute l'équipe. Et quand on est rassuré derrière, ce qui n'était pas le cas la semaine dernière, de suite, ça va mieux devant. Et après, voilà, moi, je suis très satisfait de ce qui s'est passé. Il y a au moins aussi un truc qui est assez intéressant à noter ce soir, c'est que sur les 11 joueurs qui étaient alignés, malgré le fait que l'OL ait eu déjà 7 recrues avec ce mercato, même s'il y aura sûrement des départs à venir, c'est que le seul joueur qui n'était pas dans l'effectif l'an dernier, même si en effet Fofana et Nwama étaient blessés une grande partie de la saison dernière, le seul joueur qui n'était pas dans l'effectif l'année dernière, c'était Openda. Et pour moi, il s'est déjà très bien intégré dans l'équipe et c'est surtout aussi prometteur, je pense, avec les autres recrues à venir. On a pu voir un petit peu aussi Boudache en fin de rencontre. Donc
l'ancien
il y a rien fait, mais c'est très prometteur.
Openda est une superbe recrue pour l'Olympique Lyonnais. C'était même surprenant de le voir revenir à Lyon quand on sait que c'est un joueur qui arrive.
Il a été vraiment nul là où il était à la Juve. Il ne jouait pas. Il a pas fait sa place du tout.
Il a joué, mais il y a quand même un intérêt quand même financier. C'est compliqué pour l'Olympique Lyonnais de pouvoir récupérer ce genre de joueur.
Alors, évidemment, il est prêté, ils sont pas capables de l'acheter. Hein.
Le montage fait qu'aujourd'hui, un joueur comme Openda peut être prêté.
On parle de 3,5 millions de pour Lyon. Un prépayant.
Mais c'est vrai que il faut quand même mettre en avant la cellule de recrutement de Lyon qui a fait le choix de rapatrier Openda, qui connaît très bien la Ligue 1 parce qu'il est passé par Lens, rappelons-le, et il a très très bien fonctionné. Et puis surtout, je l'avais dit un peu plus tôt, mais je trouve qu'il est très compatible dans la façon de jouer de Fonseca. Tu vois, sa manière de pouvoir garder le ballon, ses courses vers l'avant. Et il le montre, en fait. Il l'a montré sur le dernier match, il l'a montré ce soir. Honnêtement, je trouve que c'est une très belle addition pour le club. Maintenant, il faudra voir aussi, attention, hein, j'ai pas envie d'être pessimiste, mais derrière, qui a ? Tu as quelle possibilité si demain Openda est un peu moins bien, parce qu'on l'a dit, il a peu joué, donc il va forcément à un moment donné avoir un coup de moins bien dans la saison. Il n'y a pas énormément de solutions, et je rebondis sur ce que tu disais un peu plus tôt, Daniel. Si qualification il y avait pour la Ligue des Champions, tu ne penses pas que Lyon se positionnerait sur un deuxième attaquant, par exemple ?
Mais moi, vu l'état des finances, j'en suis pas sûr. Pas une vedette. Moi, je pense que sur comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les 44 millions, il y aura probablement, je dirais, un tiers d'investissement, pas plus, parce que le trou, il est tellement gros que c'est ça qu'il va falloir prioritairement boucher. Il faut arrêter de croire que nos clubs peuvent avoir de l'ambition. Je pense que la Ligue 1 sera évidemment la priorité, avec, si par bonheur tu ne touches pas trop à cette équipe, que je trouve assez séduisante, en tout cas dans sa compo là, si t'as pas des blessés, sachant que la saison est très longue, forcément il risque de manquer des joueurs à un moment ou un autre. Bref, si tu gardes cette config d'équipe là, l'objectif sera top 5 ou mieux top 4, pourquoi pas podium pour l'OL, il faudra voir la concurrence, mais c'est ça qui va être prioritaire. De toute façon, il ne faut pas rêver à ce que Lyon soit un acteur, si jamais ils vont en Ligue des Champions, de cette compétition. Et encore, d'abord, il faut passer Fenerbahçe. Donc en fait, tous nos clubs, de toute façon, sont tellement soumis à la donnée économique que limite, il ne faut presque pas trop y penser, parce que maintenant, c'est comme ça. Il faut faire avec, et puis essayer de prendre du plaisir là où tu peux en prendre, comme ce soir, t'en as pris. Dans une semaine, t'as un match contre Fenerbahçe. Tu vois, c'était marrant ce soir quand le match a démarré. J'ai vu 50 000 personnes. J'ai dit, ouais, les Lyonnais, ils partent pas en vacances. C'est fou. Ils ont envie de kiffer, quoi. Ils sont là. Il y a un mois, c'était la Coupe du Monde. Un mois à peine après, t'es déjà dans ce qui ressemble à un très gros match, dans un stade plein, en plein mois d'août, en train de rêver à pouvoir participer éventuellement à la Ligue des Champions. Bon, ben voilà, il faut peut-être kiffer avec ce genre de truc maintenant dans notre football. Il faut pas trop rêver à ce que le mercato améliore vraiment tes équipes. D'abord, on essaie de pas faire partir les bons joueurs qu'on a. Et il faut un petit peu changer le mindset un peu du football français. Pas croire que, ouais, on va récupérer les 44 millions, on va investir en faire ci, on va faire ça. On
sait que c'est possible. Mais une partie, quoi. Une partie, histoire de ne pas être ridicule en Champions League.
Et on s'en fout, Max. De toute façon, t'es pas ridicule. Personne n'attend rien de toi. Tu seras pas ridicule, de toute façon, quoi qu'il en soit, si t'y vas. Et rappelons quand même que l'année dernière, ils étaient en Europa League, les Lyonnais, que dans un premier temps, on a cru qu'ils allaient nous faire kiffer.
Ça s'est terminé,
je trouve, mais pas terrible contre le Celta Vigo.
Pourtant,
l'aventure a été belle parce qu'ils sont quand même allés loin. Hein. Mm. Bon, voilà.
Si je peux me permettre, la Ligue des Champions, en effet, ça va être la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que, comme la question que posait Max par rapport au second attaquant derrière Openda, en effet, c'est sûr que s'il n'y a que Rémi Imbert derrière ou Alejandro Gomez Rodriguez, donc les deux qui ont 18 ans, ça peut être très léger en cas de blessure de Openda, même si on sait que Fonseca il peut trouver des alternatives comme par exemple un Tolisso en neuf, mais ça peut pas durer toute une demi-saison ou toute une saison. Mais en effet, je pense que si on a la chance de se qualifier, il mérite de se qualifier en Ligue des Champions, et donc on aura une manne financière supérieure, même si, comme le disait Daniel, c'est sûr qu'on dépensera pas plus d'un tiers de ce qu'on va gagner, mais il faudra faire aussi attention au départ qu'on risque d'avoir. On sait que là, il y a Fofana qui est assez courtisé, Fofana qui est courtisé. Mais si malheureusement il part, bah on sait que ce sera forcément, on parle de au moins, je pense, une trentaine de millions d'euros. Donc si on, ce sera des fonds en plus. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que Lyon devrait.
Après, derrière, le truc, c'est que t'as pas beaucoup de temps pour recruter. Imagine, t'as la double confrontation contre Fenerbahçe. Tu te qualifies, ce qui est faisable. Hein. Lille l'a fait, dans le même barrage là. Bon, Lyon le fait. Fofana, sur les deux matchs, il fait deux bons matchs où il retrouve ses jambes. Ouais. Il est comme le match de ce soir, sauf qu'il met. Il met un ou deux buts dans
sa recrute.
Mais évidemment, avant la fin du mercato, t'as un club qui arrive et qui pose 30 millions. Et même à 25. Lyon vendra. Et Lyon vendra parce que c'est comme ça.
C'est peut-être le poste où Lyon est le plus fourni. Avec Boudache, avec Duranville. Alors évidemment, Malik Fofana a une valeur marchande. Évidemment, c'est un super joueur. Si tu devais perdre, en tout cas, parce qu'on parlait de finances, on parlait de la situation économique de l'Olympique Lyonnais, si tu dois perdre Malik Fofana et récupérer de l'argent, j'ai envie de te dire pourquoi pas, parce que je ne suis pas convaincu en tout cas que ça serait une grosse perte dans la mesure, attention, bien sûr, que tu as quand même du backup.
Bien sûr, après moi je suis d'accord avec ce que tu dis.
Si c'est plus, de perdre des joueurs à 25 millions que tu remplaces par des jeunes, bon ben il n'y a plus rien.
Non, après je pense honnêtement,
Pierre,
Je pense, tu vois, techniquement, alors je suis pas directeur sportif, je suis pas Mathieu Louis-Jean, mais pour moi, tu dis 25, mais pour moi, Fofana, il part, surtout en ayant fait deux gros matchs, on est plus aux alentours des 30, c'est un très gros prospect. 30, pour moi,
mais pourquoi pas, j'en sais rien, je suis pas à 5 millions près, je suis pas 30, comptable. Mais dire, et moi, je te dis qu'à 25, la porte ouais. s'ouvre, à 25, ça discute.
Ouais, bien sûr, mais moi, ce que je veux dire, c'est que si tu fais 25-30 et que derrière, tu te qualifies en plus en Ligue des Champions, je pense que t'es assez aisé et tu peux te permettre de recruter. Alors, moi, c'est une idée que j'ai, mais pour moi, tu vas chercher un mec comme Yann Bo de Toulouse à qui il reste un an de contrat qui est aux alentours d'une quinzaine de millions, 10-15 millions. Et derrière, tu peux même te permettre, c'est là où le gros point noir de Lyon pour moi est, c'est de recruter un deuxième attaquant et demi qui concurrence Rémi Imbert, mais plutôt un profil un peu la planche, 1m85-90, qui vient être complémentaire de ce que t'as déjà et qui
surtout. On va te donner le numéro de Mathieu Louis-Jean, là, c'est le retour du Football Manager.
Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais en vrai, je pense qu'il y a de quoi faire. En vrai, il y a de quoi faire. Hein. C'est, pour moi, c'est plutôt réaliste. Bon,
on voit que t'as plein d'idées, en tout cas, Pierre. Merci beaucoup.
Ouais, non, c'est ça qui est formidable. Merci. Je disais tout à l'heure, on a l'auditeur qui souligne le travail sans ballon d'Openda. Là, on en a un autre qui vise la place de Mathieu Louis-Jean. Moi, je trouve c'est remarquable, mais ça dit aussi beaucoup de choses sur ce qui est devenu notre football. Ça veut dire que on fait partir un mec à 25 millions qui est, bon, logiquement, un mec sur qui on peut miser dans l'avenir, qui est amené à être un gros joueur et tout ça. Et puis on dit, c'est pas très grave, on va bricoler en prenant un joueur à 2 ici et puis un autre à 3 ici.
Daniel,
et puis
on va. C'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Hein. J'ai pas dit que c'était forcément une bonne chose de laisser partir Malik Fofana, mais dans l'optique où en effet Lyon a besoin de faire rentrer de l'argent dans ses caisses.
Ah bah oui,
évidemment,
je suis d'accord, je comprends ce que tu dis.
Et 25 millions pour Malik Fofana, je suis pas convaincu qu'il parte pour 25. À mon avis, on serait plus proche des 35 ou 40. Il a été acheté déjà 20 millions du côté de Gent.
Moi, je te dis qu'à 25, le bureau il est ouvert. À 25, il le prête, on prend le téléphone, on prend la conversation.
Merci Pierre d'avoir été avec nous. On rappelle quand même que le meilleur buteur de la saison passée à l'OL, c'est un milieu de terrain, Pavel Schul, qui lui est toujours là. Alors, il est blessé, mais il va revenir. Et c'était lui le meilleur buteur. Donc, il y a aussi une diversité au niveau offensif.
Adèle, on oublie en plus les mecs qui ont été bons l'année dernière.
Bah oui, le pauvre Pavel Schluck là, voilà. Notre ami.
En un été, un tour de plage et
meilleur buteur de Lyon la saison passée et qui s'est très vite adapté à son nouveau club. Adem, supporter lyonnais, était avec nous également au 32-16. Il voulait réagir suite à la qualification des Lyonnais en barrage de Ligue des Champions. Bonsoir Adem.
Bonsoir à tous.
Adem, alors on va laisser un peu les sous de côté, on va arrêter de se prendre pour des directeurs sportifs et on va reparler de ce soir. Toi, alors t'es déjà très inquiet pour la semaine prochaine, mais kiffe un peu.
Non, oui, bien sûr, ouais, c'est un très très bon match. Franchement, j'étais inquiet aussi pour ce soir. Enfin, moins inquiet pour ce soir que pour le match contre le Fenerbahçe, parce que je savais qu'à domicile, c'était pas possible qu'on fasse une prestation comme on a fait la semaine dernière. C'est vrai que il faut dire quand même que le rouge nous a bien aidé, mais globalement je trouve qu'il y a eu une prestation aboutie.
C'est quoi, et tu vas faire la fine bouche?
Non, pas du tout. Moi de toute façon.
Ah, mais t'as placé un mets là quand même qui nous a inquiété là.
Il a pris ce mets en pleine poire là.
Parce que le chemin n'est pas fait. Le chemin n'est pas fait parce que le Fenerbahçe ça va pas être facile la semaine prochaine.
Tu veux dire que là ça n'était que l'apéro quoi. C'est le verre de rosé. T'as pas encore le barbecue, c'est la semaine prochaine.
Exactement, mais si les merguez à la fin elles sont trop cuites,
Alors une merguez n'est jamais trop cuite, Adem, parce qu'il faut que ça soit bien cuit une merguez.
C'est vrai, mais
si elle a pris trop les flammes et qu'elle est noire.
C'est un bout de charbon.
Donc ça existe qu'elle soit trop cuite. Si c'est pas faire un barbecue et que tu fais cuire ta merguez aux flammes, c'est pas bon. Demande à Max qui est très bon en barbecue. Ouais. Demande à Max, il est très bon, il fait jamais les flammes, lui. Il fait juste la brèche.
Je suis le roi du barbecue.
Ah bon? Vu que tu m'as dit hier que tu mangeais des pizzas encore, j'ai quelques doutes maintenant.
Les pizzas, c'est Daniel.
Adem, revenons à Lyon.
Oui, du coup, moi, ce que j'ai trouvé, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais ce qui m'a frappé moi, c'est l'envie des joueurs. La différence pour moi de la semaine dernière. La semaine dernière, c'était incroyable comment les joueurs, ils étaient passifs, ils mettaient pas le pied, ils avaient peur, ils couraient même pas pour certains. Je pense à McLean-Nice, etc. Et certes, chacun, c'est pas un match exceptionnel non plus, chacun a joué avec ses lacunes, comme ses qualités, mais ce qui m'a frappé déjà, c'est l'envie, l'intensité qu'on a mis, des joueurs qui ont beaucoup de déchets comme Fofana et Nouama, mais qui sont capables d'électriser aussi le match.
Est-ce que c'est pas la base, ça, ce que tu soulignes, et je suis d'accord avec toi, mais est-ce que c'est pas la base? Est-ce que c'est le contraire qui est pas normal, justement?
Bien sûr, mais déjà, le contraire n'est pas normal, mais pour moi, parce que Fonseca fait n'importe quoi la semaine dernière, mais ce que j'avais souligné aussi la semaine dernière, c'est que l'envie n'y était pas. Moi, je trouvais que les attitudes aussi des joueurs étaient déplorables. Au-delà du coaching, quand les joueurs ne se donnent pas, quand les joueurs ne courent pas et
Après, c'est pas facile. Tu sais, quand t'es sur le terrain et que tu joues pas à ton poste. Et encore une fois, hein, c'était leur premier match. Il faut pas oublier que le Sparta Prague, ils avaient déjà joué 3 matchs de championnat. Ils étaient prêts. C'est pas le cas.
Tu
joues à l'extérieur. En plus de ça, j'imagine que Fonseca, parce qu'il faut pas oublier que le dernier match amical, ils se sont fait étrier par le Betis 4-0. Donc, je pense qu'il y avait un tout, en fait, pour les Lyonnais. Il manquait aussi leurs meilleurs joueurs. Certains joueurs jouaient pas à leur poste. On l'a dit un peu plus tôt. Donc, en fait, c'est l'enveloppe globale, en fait, qui a fait qu'aujourd'hui, que la semaine dernière, Lyon s'est complètement loupé. Et là, la chose, elle est différente. T'as Fonseca qui est revenu à un schéma tactique préférentiel que les joueurs ont digéré et connaissent très bien. Les joueurs sont à leur poste, à leur tour d'étolier. Et voilà, en fait, les ingrédients ont été mis en place de la part, évidemment, de Fonseca, mais aussi par les joueurs, de manière à pouvoir derrière gagner ce match-là. Donc, c'est presque une suite logique. C'est pour ça qu'hier, quand moi, j'en parlais, j'étais pas inquiet. Attention, tu sais, peux jamais vraiment prévoir ce qui va se passer. Je le répète, c'est un début de saison. Tu sais pas vraiment quel est l'état de forme physique et mentale de certains joueurs, mais en tout cas, c'était presque prévisible à partir du moment que tu reviens à des choses simples que Lyon allait rouler sur le Sparta Prague, et ça a été le cas ce soir.
Bien sûr. Mais après, tu vois, par exemple, la semaine dernière,
Adem, on arrête de parler de la semaine dernière. C'est le passé. Dernière question, Adem. Pour toi, Lyon est favori ou pas face au Fenerbahçe?
Non, parce que le Fenerbahçe, c'est pas non plus une équipe à prendre la légère, comme je l'ai dit.
Le cimetière de l'Europe, Fenerbahçe, il y a que des vieux. On parle de la MLS, Daniel Riolo et Maxime Chano, on peut encore y jouer.
Non,
t'as Skriniar, t'as Soyuncu, t'as Semedo, je t'assure. Écoute, j'ai vu Daniel courir, crois-moi, à New York, je peux te dire qu'il peut jouer au Fener.
Moi qui suis le championnat turc, alors c'est vrai que l'intensité du championnat turc est très en dessous des championnats français, etc. Mais il y a quand même une politique sur ces dernières années qui n'est plus de prendre les retraités comme le faisait avant, autant de retraités comme le faisaient avant certains clubs, mais de prendre maintenant des joueurs aussi.
Ce sont des joueurs plus fringants, c'est vrai.
Avec certains potentiels.
Ils veulent quand même aller chercher Lukaku, hein.
Moi, je pense que ça peut le faire, mais il faut un très bon Noël pour sortir en deux matchs Fenerbahçe.
Donc, c'est du 50-50 pour toi, Daniel?
Franchement, je ne peux pas me risquer une sorte de pari comme ça. C'est les états de forme des équipes, savoir quel joueur va jouer. Ils sont en plein recrutement, Fenerbahçe. Donc, comment sont les joueurs qui arrivent? Max vient de dire Lukaku doit arriver. Dans quel état il est? Il rentre de vacances, il peut jouer, il ne peut pas jouer. C'est très difficile. Les matchs du mois d'août, de Ligue des Champions comme ça, c'est très difficile d'évaluer les forces en présence. Favori, pas favori, je m'en fous. Évidemment que c'est 50-50, qu'est-ce que tu veux que ce soit. On n'arrive jamais à le passer, ce barrage. Lille l'a fait justement contre Fenerbahçe. Ouais. Lyon doit faire la même chose. Mais pour moi, c'est plus dur que le Sparta, oui.
C'est bien plus dur, mais bon, c'est pas non plus... Un cadeau.
Toi, tu nous l'as présenté comme une maison de retraite.
En tout cas, ça sera beaucoup plus dur que contre le Sparta Prague. C'est une certitude. À partir du moment que Lyon est bien en place, je pense que sincèrement, Lyon est en mesure, en tout cas, d'inquiéter le Fenerbahçe. Attends, quand tu regardes un petit peu l'effectif, tu l'as dit, c'est que des anciens, t'as des internationaux qui reviennent.
Ouais, mais il y a du talent quand même.
Non, mais c'est bien sûr, anciens, t'as Gattuso, t'as N'Golo Kanté, t'as des joueurs, je suis d'accord avec toi, Daniel.
Mais il y a quand même des joueurs de talent.
Mais sur une double confrontation avec ce qu'a montré l'OL ce soir, je pense que c'est jouable. Et en plus, recevant le match retour à la maison.
Le plus important, justement, ça va être de gérer le match aller pour moi. Parce que, justement, le Fenerbahçe, c'est pas Sparta Prague. Je vous promets que si on ne fait pas un résultat au Fener, au match retour, si on part avec 2 buts de retard, ça va pas être, on va pas les remonter. Du moins, ça va être beaucoup plus difficile. Et il y a beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de talent aussi au Fenerbahçe.
Adem, rendez-vous mardi prochain, match aller en Turquie. Merci beaucoup.
Adem, il est tellement à fond là cette semaine, déjà il fait rien. Là, il est déjà dans le match de la semaine prochaine.
Ah bah oui, il a peur, il est inquiet.
Il est déjà en apnée. Il est en apnée là déjà.
Merci beaucoup Adem, belle soirée à toi. On rappelle donc que Lyon a fait le job et jouera les barrages de la Ligue des Champions. 18 août, l'aller au Fenerbahçe. 26 août, la réception des Turcs au Parc OL. Ce soir, il y avait plus de 50 000 personnes pour ce match. Donc bravo aux Lyonnais qui se sont déplacés en nombre. Dans quelques instants, on est à J-1 de la Supercoupe. On rappelle le PSG est opposé à Aston Villa. Et puis toutes les informations Mercato. On est ensemble jusqu'à minuit sur RMC. À tout de suite.
RMC, l'afterfoot.
Karine Galli.
On est ensemble jusqu'à minuit sur RMC en direct avec Maxime Chano, avec Daniel Riolo. Lyon est qualifié pour les barrages de Ligue des Champions. Ça sera face au Fenerbahçe. Il y aura également les retrouvailles avec Greenwood qui a quitté Marseille et qui va retrouver un club de Ligue 1. On va parler du PSG. Le PSG.
Oui, il est tellement taré, il est capable de se dire je vais être très bon sur ce match-là. Et il est tellement la tronche. Ah, lui, il a tellement la tronche abîmée que je vais leur montrer en Ligue 1 que c'était moi le meilleur. Et tout. Oh là là.
Calme-toi, Daniel, tu viens de reprendre. Nous sommes le 11 août, tout va bien.
Bah, dis que t'es pas d'accord, dis que t'es pas d'accord sur Greenwood.
Bon, bah, franchement, Greenwood, tu sais jamais. Un jour, il est étincelant, un jour, il est fantomatique. Donc, écoute.
C'est ce que je suis en train de te dire. Il est tellement barré que ce gars-là, juste parce que c'est un club de Ligue 1, il est capable de se mettre en sang.
Eh ben écoute, peut-être. Nous verrons ça, ça sera mardi prochain sur RMC.
Donc t'as pas d'avis, donc t'as pas envie d'avoir un avis là-dessus.
Mais non, mais je sais pas dans quel état il est.
Donc t'as pas d'avis.
Vacances, tu vois.
Non, mais c'est vrai.
Franchement, après, pour son club, il a intérêt de se bouger pour essayer de les mettre en Ligue des Champions, ça serait la moindre des choses, quoi. Tu vois, qu'il commence avec un feu d'artifice. Souvent, de toute façon, les joueurs, quand ils arrivent dans les clubs, ils font des feux d'artifice. Bon, après, ça fait shit dans l'eau, parfois, mais au moins, ils commencent en mettant le beau costume. Donc on verra ça mardi prochain. Nous sommes à J-1 de la Supercoupe, messieurs, entre le PSG et Aston Villa. Les Parisiens sont arrivés à Salzbourg, magnifique ville si vous ne la connaissez pas et si vous voulez un petit peu de fraîcheur, n'hésitez pas à aller voir la ville de Mozart, il fait bon vivre, on mange très bien, c'est pas mal. Et donc les Parisiens vont bien, tout le monde est là, tout le monde est disponible.
À Salzbourg.
Ouais, enfin, Schnitzel bien sûr.
Le quoi ?
Schnitzel ?
Avec l'accent.
N'escalope pané.
Ah ouais.
Et il y a des desserts délicieux.
Bravo, je ne savais pas que tu savais.
Bah, enfin, je suis déjà allé pour des matchs, notamment de Lille à Salzbourg.
Je savais pas que tu connaissais l'escalope panée de Salzbourg.
Bah oui, oui.
C'est bon ça.
Bah, évidemment que c'était.
Ah oui, bah oui.
Enfin, t'as jamais joué à Salzbourg ?
Vous êtes calé, non, jamais, non. Vous êtes.
Bah, c'est un peu le, c'est un peu le truc que tu mangeais pendant tout l'été aux États-Unis, là, voilà, espèce de cordon bleu, sauf que c'est pas fourré l'escalope panée. Voilà, c'est.
Va faire une petite virée à Salzbourg,
c'est mieux.
Ça va. Tu vas voir la statue de Mozart, tout ça, etc. Bon, demain il y a un match, donc le PSG est au complet. Il y a 7000 supporters présents pour le match. Tout est a priori ok. Tout le monde est dispo. Bon, on ne sait pas encore quels internationaux vont jouer. Mais du côté de Safonov et Guevara, eux, ils sont attendus titulaires. Alors que du côté, par contre, d'Aston Villa, il y a quand même trois joueurs majeurs qui seront absolument pas là, parce qu'il a décidé. Comment il s'appelle, l'ancien du PSG, là ? C'est ça, Unai Emery, de les laisser au repos. Donc nous n'aurons pas Watkins, nous n'aurons pas Emiliano Martinez et nous n'aurons pas Consas. Donc ça fait quand même trois joueurs cadres en moins.
Et puis surtout des joueurs cadres qui sont partis,
comme
Morgan Rodgers, Tim Mas. Lucadille, t'as aussi Onana qui s'est blessé pendant la Coupe du Monde avec la Belgique. Non, c'est.
Il se marre tout seul.
non, mais niveau joueur, c'est vrai que là, Aston Villa, ils sont vraiment déforcés. Hein.
Ils sont quoi ?
Déforcés. C'est-à-dire qu'il y a énormément de joueurs qui sont partis.
Déforcés, ça veut dire quoi ? C'est il manque de la force, donc t'es déforcé. C'est un nouveau verbe, ça.
Non, c'est pas français, non.
Ah bon ?
Déforcé, non.
Ah d'accord.
Après, c'est les années en MLS, Karine. Les années en MLS, c'est comme ça.
Beaucoup de joueurs par rapport à la saison dernière.
Les années en MLS, ça te fait inventer des verbes.
Non, c'est pas ça.
En même temps, on le comprend bien.
Ils ont perdu des forces vives, on peut le dire, mais déforcés.
Attends, je vais. Je vais vérifier.
Mais n'empêche que
ça n'existe pas.
Allez, ne vérifie pas. Oui. Ne vérifie pas, Max. Mais c'est là où je trouve que tu as du talent. Dis-moi. C'est que quand tu inventes un verbe, ouais. Et ben on se dit finalement ça colle, on comprend bien ce que ça veut dire.
Tu vois, on a deux doigts de douter, quoi.
Tu vois, il suffit juste d'être.
Est-ce que la première question, c'est est-ce qu'il vous intéresse ce match ?
Beaucoup, moi.
Oui, parce qu'il veut voir parce que déforce
le déforcement, ça se dit pas ça non plus. Non, beaucoup, non, Daniel, parce que c'est un titre à jouer, c'est une finale et on sait que c'est tellement difficile de pouvoir atteindre ce genre de finale. On banalise parce que c'est le Paris Saint-Germain,
C'était pas pour ça que je posais la question. C'était parce que l'année dernière, et je trouve qu'on est quasiment dans une sorte de copier-coller de l'année dernière. L'année dernière, c'était très particulier puisque à cause du mondial des clubs, donc le PSG était arrivé exactement comme cette année.
année, avec une tonne de joueurs qui étaient soit fatigués, pas aptes, qui n'avaient pas fait de préparation, qui ne pouvaient pas jouer. Là, c'est à cause du mondial que beaucoup de joueurs ont repris plus tardivement et qu'on arrive avec une équipe qui va devoir ça va ressembler à une sorte de bricolage, on va dire, où Luis Enrique va faire jouer des bouts de match à certains de ses joueurs. Je suis à peu près sûr qu'on va voir, comme l'année dernière, beaucoup des titulaires habituels pas jouer les 90 minutes, que ça va pas mal tourner, que l'équipe aura une allure, évidemment pas Ligue des Champions, mais elle aura quand même une belle allure. Mais en fait, on est dans une adaptation maintenant où ces matchs-là, tu relativises leur importance parce que tu arrives de toute façon avec des joueurs qui sont pas prêts. Donc, il faut s'adapter. Et puis, de toute façon, tu as déjà l'excuse au préalable de « ça, c'est pas bien passé ». Ouais, mais bon, tu comprends, on n'avait pas notre équipe, machin. Mais toi, tu dis, Max, vous banalisez, on banalise et tout. Mais en fait, c'est le calendrier international, comme il nous est proposé, qui est en train de banaliser les matchs. C'est tellement pas rangé, c'est tellement le foutoir, c'est tellement le bordel que cette Super Coupe d'Europe, elle arrive là. Alors toi, tu dis c'est intéressant, PSG Aston Villa, vainqueur de la Ligue des Champions, Europa League. Ouais, sur le papier, c'est intéressant. Mais reconnais quand même que Aston Villa, il leur manque trois jours très importants. Paris, ça va être, ils vont jouer, mais bon, ils vont pas être au top. Quand tu feras ton analyse à la fin, tu auras peut-être vu un beau match, un beau spectacle et tout ça, mais tu vas forcément te taper des mecs qui vont arriver. Ah ouais, mais il manquait un tel, il manquait un tel. Soit on arrête de dire. Il y a des absents, parce que le foot maintenant, ça n'est constitué, les matchs de foot sont constitués que d'équipes qui ont des absents, qui réservent leurs joueurs pour les matchs importants, tout ça. Il faut arrêter alors. On arrête ce genre de réflexion. On prend brut le match qu'on est en train de regarder et on arrête de dire il manquait un tel, il manquait un tel, ils n'étaient pas prêts, ils étaient pris, ils étaient fatigués. Voilà. Le foot depuis un an est dans cette évolution, quasi révolution. Et moi, je pense que ça doit changer notre analyse, en fait.
Ouais, là où voilà. Je te rejoins, en effet, hein, c'est vrai que le calendrier est très mal fait. Ce match, on aurait préféré peut-être l'avoir en pleine saison ou à un moment donné où est-ce que le Paris Saint-Germain avait peut-être récupéré tout ça.
Dans deux minutes, c'est le bordel de partout, les calendriers. On y
comprend rien. Mais je suis d'accord avec toi. Mais il y a tellement de matchs que c'est difficile, finalement, de trouver des bons moments quand tu rajoutes le championnat, les coupes nationales, plus les coupes d'Europe. C'est compliqué de trouver, finalement, des week-ends de libre ou en tout cas des semaines où tu peux te permettre de rajouter ce match-là.
Qu'est-ce qui fait qu'un match est important, Max ? Qu'est-ce qui fait qu'un match, au final, qu'est-ce qui fait finalement qu'un match devient important ? Si tu as un match de Coupe du Monde, tu as France-Espagne, la France perd, les gens qui regardent les Bleus sont tristes. Pour moi, c'est en fait, quand le match est important, c'est quand il provoque chez toi une émotion, un sentiment. Super Coupe d'Europe, c'est une sorte de match de gala. Moi, je pense que si jamais, je me souviens que l'année dernière contre Tottenham, c'était passé limite, il y avait les pénaux, machin, tout ça. Si le PSG venait à perdre demain, est-ce que les supporters du PSG, est-ce que le club s'effondrerait ou serait triste ?
Non, mais bien sûr que non, mais quand même tu mets ce match-là en milieu de saison, c'est la même chose, Daniel.
Bah oui, donc ça veut dire qu'on rajoute des matchs, on a des compétitions.
Donc c'est plus l'utilité de ce match plutôt que.
On est bien obligé de relativiser, tout ne peut pas être important dans la vie, tu vois.
Oui, sur ça je te rejoins. Mais ça reste malgré tout une finale, ça reste un trophée à lever et je trouve que c'est quand même important de pouvoir justement avoir ce genre de match parce que l'opinion publique en règle générale, la planète football un peu banalise ce genre de match aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, tous les supporters parisiens, ils l'auraient rêvé de cette finale. Donc j'entends ce que tu es en train de dire et en effet, c'est un problème de calendrier parce que lorsque tu schedules que tu organises un match à cette période de l'année où est-ce que les trois quarts des gens sont en vacances, ou dans certains clubs, notamment au Paris Saint-Germain, le retour des internationaux s'est presque fait quoi, il y a quelques jours seulement pour les Français et pour les Espagnols.
Récent.
Et donc je comprends qu'en effet, ça tue un petit peu le match. Maintenant, aujourd'hui, le match, il est là, il existe. Je ne sais pas ce que ça va donner parce qu'on l'a dit un peu plus tôt, mais Aston Villa est non pas déforcé, on va dire affaibli.
Alors attends, bonne nouvelle. Déforcé, on peut l'utiliser en Belgique. Et vu que tu es aussi un petit peu belge. Voilà.
Mais bien sûr que ça existe tous les jours.
Oui, on est quand même en France. Hein.
C'est une sacrée news. Hein. Le verbe déforcer est un verbe transitif.
Voilà, mais d'accord. C'est un terme principalement utilisé en Belgique.
D'accord, mais ça existe. Ouais. T'as vu ça où ?
Parce que moi, sur Internet, j'ai cherché.
Je vois sur le petit Larousse, en effet, déforcer, c'est l'équivalent d'affaiblir.
Et donc, ça, on le dit en Belgique. D'accord. Donc, on te l'accepte.
C'est plus dans le petit
Bob. Éditeurs belges. Voilà.
Voilà.
Je pense à Robert.
Voilà. Mais n'hésite pas à nous employer des termes qu'on connaît tous en France, même si tu as un petit peu de belgitude en toi. Mais voilà, d'accord. Ça passe.
Bon, bah écoutez, donc, s'il vous plaît, mes amis les Belges, défendez-moi.
Bravo Max.
Donc Aston Villa s'est déforcé et c'est vrai. Voilà. Tu peux le dire, super, effectivement.
Ça, j'en profite.
Ils ont perdu des raison. Joueurs. Messieurs, on va écouter Luis Enrique parce qu'il va débuter sa 4e saison sur le banc du PSG. On lui a demandé comment peut-il garder ses joueurs toujours motivés après tant de victoires. On écoute l'entraîneur espagnol.
Je suis très chanceux car j'ai une superbe équipe avec des joueurs toujours motivés. Ils n'ont pas besoin de plus de motivation, ils vivent pour ce qu'ils font. Ils essaient d'être meilleurs chaque jour, je suis très chanceux et c'est l'une des clés.
La fin appelle la fin quand même, Maxime. C'est vrai que le PSG gagne tout depuis 2 ans et on a l'impression, et on a vu le scénario se répéter lors des 2 dernières années, que parfois le PSG était au bord du précipice et ils s'en sortaient quand même.
Oui, oui, bah notamment sur le dernier match contre Tottenham, hein, l'année dernière, où est-ce qu'ils étaient menés 2-0, et puis derrière, t'as encore notre grand Gonzalo Ramos qui sauve le Paris Saint-Germain, et puis il me semble qu'il gagne au pénalty, c'est ça, hein.
Oui, sens de tir au but.
Voilà. Donc non, mais c'est par rapport à ce que j'ai dit un peu plus tôt, les fans du Paris Saint-Germain ont tellement souffert pendant toutes ces années-là. Aujourd'hui, t'es dans un cycle qui est exceptionnel, avec un entraîneur qui est incroyable, et des joueurs qui roulent sur l'Europe. Profitez-en, profitons-en. Voilà, s'ils doivent aller chercher ce match, et cette victoire contre un Aston Villa, qui est affaibli et non déforcé, et bah qu'ils le fassent, parce que t'es pas à l'abri que demain bah le cycle commence un petit peu à s'éteindre du côté du Paris Saint-Germain, et puis tu regretteras peut-être toutes ces finales que t'as entre guillemets pas vraiment joué. Donc non, je trouve que c'est un match important, ça va continuer en tout cas à permettre au Paris Saint-Germain vraiment d'être sur le toit de l'Europe s'il devait gagner contre cet Aston Villa. Alors après, il faudra regarder exactement à quoi va ressembler l'équipe d'Aston Villa, à quoi va ressembler l'équipe du Paris Saint-Germain. Maintenant, ce qui est aussi intéressant de savoir, et là je te rejoins Daniel, dans le calendrier, dans la manière dont ça a été organisé, ce qui est fou, c'est que finalement ils jouent un match de Super Coupe d'Europe demain et 5-4 jours plus tard, dimanche me semble-t-il, ils rejouent contre Lens.
Dimanche, trophée des champions.
Et donc là, c'est vrai que ça devient n'importe quoi. Et je me mets à la place d'un Luis Enrique qui récupère ses internationaux. En fait, c'est un jeu de balance, de savoir qui tu dois mettre sur le premier match, sur le deuxième match. Et là, je suis d'accord, je trouve que ça tue un petit peu.
C'est super bien géré.
Je trouve que ça tue un petit peu la saveur de ces deux matchs qui auraient peut-être organisé différemment, en tout cas des dates différentes.
Alors, je ne sais pas si ça tue la saveur des deux matchs. En tout cas, moi, je trouve que la phrase de Luis Enrique, elle n'est pas anodine du tout. Parce que dans le football d'aujourd'hui, ce qui est le plus difficile pour un coach, c'est justement de concerner les joueurs. Ça renvoie à l'interview sortie il y a une semaine de Mehdi Benatia sur la saison de l'OM de l'année dernière. Ça renvoie à pas mal d'interviews de joueurs que tu peux lire dans l'équipe, dans France Foot, dans SoFoot parfois, où quand tu les lis, tu dis ouais, là on est. T'as l'impression que la motivation, c'est la géométrie variable dans le football d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup, par exemple, l'année dernière, des équipes qui ont eu des trous. 5 matchs, pas de victoire, et puis 4 victoires et un match nul de suite derrière. Et qu'on a eu tous ces swings, toutes ces fluctuations dans la saison de beaucoup d'équipes. Et le PSG, et il faut bien dire aussi que le staff, Luis Enrique en 1 et son staff, c'est là où ils sont très très forts. C'est qu'ils arrivent à maintenir, d'abord dans le recrutement, dans le profil des joueurs qu'ils ont pris, et grâce à leur travail, maintenir ce niveau de motivation qui fait que les joueurs, quand il y a une compétition, quand il y a un match, ils sont là. Que même quand ils ont pratiqué pendant une demi-saison un turnover assez important et qu'il manquait beaucoup de très grands joueurs, bah ceux qui jouaient affichait un niveau de performance toujours très très bon, quoi. Ça, c'est super fort dans le football d'aujourd'hui. Moi, je pense que la force du PSG, elle est là aujourd'hui. Et dans le travail de Luis Enrique, cet aspect mental, moi je le souligne depuis plus d'un an et demi maintenant, c'est la plus grande force de cette équipe, c'est ça. C'est qu'ils sont toujours au taquet, là où d'autres équipes vont avoir des performances beaucoup plus aléatoires.
Et d'ailleurs, Marquinhos a été interrogé sur l'envie de continuer à gagner, lui qui est présent au club depuis 2013, et il imagine déjà le triplé en Ligue des Champions. On écoute le capitaine.
C'est ça notre objectif. On sait comment il est difficile. C'est pas parce qu'on a gagné beaucoup de choses les 2 dernières saisons, c'est qui était facile. Le chemin et la route, on connaît comment elle est vraiment avec beaucoup d'obstacles, beaucoup de pierres dans le chemin. Et on va y aller petit à petit. D'abord, on a un objectif demain. Un objectif qui est très important. Même si on n'a pas eu beaucoup d'entraînement, on a faim et on a envie. Et les objectifs et les titres, ils te donnent l'opportunité et tu dois les prendre. Tu dois pas laisser passer. Je vise de plus en plus gagner. Et je pense que tous les joueurs notre équipe, ils sont comme ça aussi. Ils ont fait leur travail pour arriver ici et être prêts pour donner un maximum qu'ils peuvent donner pour ce match de demain. On va donner son 100% pour aller chercher cette victoire.
C'est assez bluffant quand même le sort du back-to-back. Ah, Doué notamment avait dit direct, on va aller chercher la troisième.
Ouais, c'est beau.
Et là, t'as Marquinhos qui devrait être repu de succès, de victoire après avoir connu des années galères.
Attends, t'as vu le pain noir qu'il a mangé pendant 10 ans, lui.
Oui, mais ça, maintenant il s'est bien
remis. Ah, il a découvert la baguette depuis la baguette depuis 2 ans. Maintenant, il en mange. Quoi.
C'est impressionnant. Les Parisiens qui sont tous dans ce mood là. Mais un petit mot, c'est une information RMC. L'accord est trouvé entre le PSG et Parme pour Suzuki. Là, il va nous sortir un jeu de mots, à mon avis, Daniel. Donc, le gardien de but.
Non, là, quand c'est trop évident comme ça, on ne fait pas.
Ouais, il allait dire qu'il arrivait en moto.
Non, faut pas. Non, faut pas. C'est trop bidon. Ça, je fais pas. Je donne pas dans les vannes bidons de ce genre. Moi.
Donc, Suzuki, en tout cas, le gardien de Parme devrait arriver au PSG. On parle d'un gardien japonais qui doit s'engager pour 5 ans. Il a que 23 ans. Alors, il y a un enjeu évidemment sportif, mais il y a aussi un
chevalier Savonov Suzuki. C'est pas possible. Hein.
Non, oui, il y a aussi un très gros enjeu marketing, messieurs, parce qu'on sait que Lee, par exemple,
et il y avait l'autre aussi beaucoup. Là.
Il est parti. Suzuki, donc, au niveau du marché asiatique, eh ben, il va avoir une importance énorme pour que le PSG continue de s'étoffer et de grandir au niveau international. Qu'est-ce qu'on fait là ? Qui saute ? C'est évidemment Chevalier ?
Ah bah oui. Chevalier, vu la saison qu'il vient de faire, évidemment, s'il y a une porte de sortie.
Non mais 50 lui. Millions, bon, après... il a écouté.
Ah, ce l'oseille, c'est un problème au PSG quand
même. Non, mais je veux dire, tu l'envoies où ?
Bah, s'il y a une porte de sortie pour lui, s'il y a un matière à le vendre, évidemment, si personne en veut, tu vas pas le vendre.
Porte de sortie chez les gardiens, c'est compliqué.
Safonov, il a coûté cher aussi. Il avait coûté 20-25 millions, je sais. Ouais. Mais honnêtement, t'es Lucas Chevalier, tu restes en troisième gardien. Je veux dire, déjà que ta carrière, elle a pris un coup de gourdin dans la tronche l'année dernière. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes troisième gardien? Alors qu'il y a un an et demi, non, même pas, mais qu'est-ce que je raconte? Un an, puisque quand le match contre Tottenham, Lucas Chevalier, dans la séance des pénaux, tu dis, oh là là, le gardien qu'on a recruté, c'est fantastique. Machin. Il y a un an, le mec il a annoncé partant certain pour la Coupe du Monde 2026. Au moment où est arrivée la Coupe du Monde 2026, limite on avait oublié son prénom au gars. Que je veux dire que le football va très vite. Le mec il peut pas continuer comme ça, Chevalier. Il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il demande au club à partir et il faut qu'il parte n'importe où, même dans un club moyen. Il faut qu'il se relance, Lucas Chevalier.
Et est-ce qu'on va encore avoir un numéro 1, numéro 1 bis? Parce que là, Suzuki, pas clair.
La question, c'est de savoir si Safonov vraiment resterait numéro 1, parce que même s'il a fait une saison plus que correcte.
Mais Safonov, t'as gagné la Ligue des Champions avec lui. Qu'est-ce que tu veux faire?
Mais on est d'accord avec moi qu'il a quand même.
À partir du moment où tu gagnes la Ligue des Champions, parce que.
Pourquoi t'as dégagé Donnarumma? Donc dans ce cas-là,
Donnarumma, c'est pas lui qui l'avait recruté. Donc si vous voulez son gardien, tu peux
la Ligue des Champions, que tu gardes ton gardien. S'il y a des axes à améliorer dans cette équipe du Paris Saint-Germain, Daniel, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est peut-être la défense centrale et aussi le gardien de but. Safonov est un bon gardien, un très bon gardien. Est-ce que tu ne peux pas gagner en qualité?
Je sais pas, on a dit ça toute l'année dernière, on a dit
ouais, Donnarumma. Mais capte pas un ballon, Daniel. J'ai l'impression de te voir jouer au tennis. La balle, elle part son temps à partir à gauche à droite.
Mais on capte plus de ballon en 2026, tu le sais bien. Le chat est fini.
Et quand tu es au Paris Saint-Germain, tu dois avoir un grand gardien.
Mais quand
tu
as été champion d'Europe et que tu t'es baladé comme ça et qu'en plus à aucun moment, vraiment à aucun moment, Safonov, tu peux dire qu'il a été un handicap dans l'équipe l'année dernière.
Non, tu pas un handicap, mais je pense que tu peux améliorer ce poste.
Autant l'année d'avant, tu pouvais dire que Donnarumma, même si dans le profil il ne plaisait pas à Lucien Riquet, il avait été décisif. Il y a 2 matchs où Donnarumma, sans lui, enfin sans ses, où factuellement, tes yeux voient que le mec a sauvé l'équipe, a fait des arrêts qui ont été capitaux. Et il est parti quand même. Safonov prend ça. Lucas Chevalier arrive, il se déchire. C'est Safonov qui prend la place. Tout le monde dit, oh, la cata. On se souvenait de son match où il avait joué au Bayern l'année d'avant. C'était quand le mec, il a joué. Pas un moment, tu t'es dit, oulala, c'est un handicap, Safonov.
Non, c'est pas un handicap.
À aucun moment.
Tu peux mieux
même
faire,
avec ses sorties un peu cheloues, même avec ses prises de balles. Bah, bon, ok, bah, écoute, il a fait le job, il a été bon. Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, et puis Suzuki, toi, enfin le peu qu'on le connaît, ça a l'air d'être. Enfin, si c'était un top gardien sur le marché, on le saurait depuis longtemps.
Il a fait le job, en tout cas. Donc Suzuki devrait arriver au PSG. L'accord est trouvé. Suzuki,
on verra bien.
On attend évidemment l'arrivée de Suzuki. Donc un choix sportif et aussi un enjeu marketing pour le marché asiatique. Merci beaucoup Daniel, merci beaucoup Maxime.
À demain.
On rappelle que Lyon est qualifié pour les barrages de Ligue des Champions. Victoire 3-0 face au Sparta Prague. Prochain adversaire, le Fenerbahçe. Ça commencera mardi en Turquie. Belle nuit à tous sur RMC. Merci à Jessie, merci à Paul. Bonne nuit à tous.
RMC, l'after foot.